de mon propos, c'était de vous rappeler que cette croissance n'est pas entre nos mains. Elle est entre les mains de Dieu. J'aborderai cet après-midi un troisième et dernier sujet, alors on pourrait en aborder d'autres, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie de l'Église, c'est l'envoi en mission. Il me semble que c'est constitutif de l'identité de l'Église, dont John Stott disait, je vous l'ai dit hier, l'Église est le seul club qui existe pour ceux qui n'en sont pas membres. C'est-à-dire que nous sommes là pour porter la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore. L'envoi en mission, une stratégie déroutante. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi un texte dans l'évangile de Matthieu. Alors, je présente mes excuses d'ores et déjà à Camille.
Ils m'ont entendu sur ce sujet. Et vous entendrez quelques suppléments sur la question.
Matthieu 10 dit ceci. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et c'est ça qui est déroutant. Comme des brebis au milieu des loups. Mais j'en parlerai plus tard. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes. Car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et l'on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux non-Juifs. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Et j'arrête là ma lecture de l'Écriture.
Et je voudrais vous raconter
une histoire, mais cette fois-ci, elle n'est pas fictive. Elle est réelle et elle est biblique. Quand le jeune David, berger de son état, à peine une quinzaine d'années d'après la tradition, entend le défi habituel lancé par Goliath, le champion des Philistins, il aurait pu, ce David, il aurait dû trembler comme ses frères et toute l'armée d'Israël. Je vous rappelle les paroles du Philistin. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue,
il nous serait assujettis
et vous serez nos esclaves. David, vous savez qu'il était venu apporter à manger à ses frères, aurait pu aussi tourner les talons et dire qu'après tout, il était trop jeune, ce n'était pas ses affaires. Ça aurait en tout cas bien arrangé son frère aîné, Eliab, qui était piqué au vif de voir que son petit frère avait plus de courage que lui. Mais le jeune David est d'une autre trempe et ne supporte pas qu'un incirconcis, dit le texte, des Philistins osent insulter les bataillons du Dieu vivant. Alors il est décidé à relever le défi. Et une alternative s'offre à lui. Revêtir l'armure, le casque et la cuirasse du roi Saül en ceignant son épée, ou y aller simplement avec son bâton, sa besace et sa fronde. En d'autres termes, David doit-il se transformer en soldat et combattre Goliath sur son propre terrain? Ou doit-il rester lui-même le petit berger et attirer le géant sur le terrain qui lui est familier? Vous savez le choix qu'a fait David. Et il tient tout entier dans une conviction profonde que je cite, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivra aussi de celui, de ce Philistin. » Et c'est pourquoi David va vaincre. Quel rapport avec notre thème et avec notre texte et avec le thème de ce week-end? C'est que, mes amis, l'Église n'est décidément pas un organisme ordinaire. Elle reçoit pour mission de communiquer l'Évangile à un monde troublé, une humanité désemparée, et elle s'expose au risque des foudres d'adversaires acharnés. Et cela s'apparente, en fait, à un véritable combat. Le Seigneur, en envoyant ses apôtres, nous apprend que, premièrement, on n'entre pas dans ce combat la fleur au fusil. Il nous envoie au milieu des loups. Et les Goliaths, mes amis, ne manquent pas qu'ils veulent terroriser le peuple de Dieu et dévorer ses enfants. Deuxièmement, il ne faut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Il nous envoie comme des brebis vulnérables et paisibles, pas comme des soldats féroces et suréquipés. Et c'est là que se loge la stratégie déroutante du Seigneur. Troisièmement, il ne faut pas se tromper de combat. Il nous envoie pour être témoin de son amour et de sa grâce. Il ne nous envoie pas conquérir un quelconque pouvoir. Et donc, je suivrai ces trois parties. Apprendre à connaître le monde et ses intentions, un monde fait de loups. Rester fidèle à notre identité, nous ne sommes que des brebis. Et enfin, ne pas nous tromper de combat. Il nous envoie comme témoin, pas comme conquérant. Je commence par apprendre à connaître le monde et ses intentions. Le Seigneur avertit ses apôtres qu'il les envoie au milieu des loups. Le contexte immédiat permet de préciser. Il est question d'ennuis judiciaires. Envoi devant les tribunaux, comparution devant des hommes de pouvoir, livraison aux autorités. Il est question de persécution, fouet, condamnation à mort, fuite. Il est question de haine. De haine jusque dans les familles et de la part de toute la société. Autrement dit, mes amis, le monde vers lequel le Seigneur nous envoie est à la fois cruel et dangereux. Et il est à mon sens impossible, sauf à vivre au cœur même de la persécution, de prendre la juste mesure de la dangerosité du monde si nous n'avons pas une doctrine juste du péché et de ses conséquences. Ce que l'Écriture nous apprend depuis la désobéissance d'Adam et Ève, c'est que la création tout entière est soumise à la puissance de la corruption dont la mort est la seule issue. Hommes, femmes, animaux, plantes, tout est marqué par la maladie sous diverses formes. Le vieillissement, la déchéance, tout. Cela voudrait-il dire qu'il n'y a rien de beau et de bon dans l'existence, dans la création? Non. Non, et nous pouvons à juste titre nous extasier devant la beauté d'un soleil couchant, la majesté d'un massif montagneux enneigé, ou l'admirable complexité du corps humain, mais rien n'a en même temps échappé au pouvoir de la mort. Écoutez bien, les rayons du soleil peuvent tuer. Les montagnes enneigées peuvent engloutir des skieurs imprudents ou des villages entiers par la puissance des avalanches. Et la complexité admirable du corps humain peut se transformer en une redoutable machine à tuer quand les cellules se multiplient de façon anarchique. On appelle ça le cancer. Mais la puissance de la corruption du péché, c'est malheureusement plus que cela au sein de l'humanité. C'est le dévoiement de l'intelligence qui fait que la science médicale, développée pour soigner, se met au service de funestes desseins. Supprimer quasi systématiquement et sans pitié les fœtus porteurs d'une anomalie génétique ou précipiter la mort des personnes en fin de vie. La puissance de la corruption du péché, c'est l'exacerbation des émotions qui sont pourtant précieuses aux relations, jusqu'à la destruction de soi par le suicide ou des autres par la tyrannie. C'est encore l'annihilation de la volonté si nécessaire pour vivre et avancer, jusqu'à l'addiction asservissante ou la prostration destructrice. La puissance de la corruption du péché, c'est cette créativité pervertie qui utilise les dons même de Dieu pour mieux se passer de lui, ou pire, pour tenter de prendre sa place. Par exemple, c'est le mari qui se fait Dieu de sa femme en la battant parfois jusqu'à la mort. C'est l'autorité légitime au travail qui devient toxique par le harcèlement. Mes amis, tant que nous n'avons pas pris la mesure de cette terrible puissance à l'œuvre, nous n'avons pas compris ce qu'est la perdition. Une perdition qui transforme nos sociétés occidentales en sociétés de mort. Une perdition qui entraîne une partie de nos élites politiques, intellectuelles, médiatiques, religieuses, y compris évangéliques, mes amis, à se vautrer dans l'ignominie de l'abus sexuel sur des personnes plus faibles. Mais allons un peu plus loin et précisons deux choses. Le péché n'épargne rien en ce monde, pas même nos louables intentions. Faute de prendre la mesure de la corruption du péché, les chrétiens sont parfois de doux rêveurs. Ainsi, depuis des décennies, ils s'imaginent que la spontanéité du cœur est plus sanctifiée que la liturgie préparée et les prières récitées. C'est une grave erreur. Car le cœur, à vrai dire les émotions, est aussi touché par le péché. Et vous savez, on peut dire spontanément de grosses bêtises ou chanter spontanément pour se faire du bien plutôt que pour honorer le Seigneur. Deuxième chose, le péché ne s'arrête pas à la porte de nos églises. Je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est pourquoi nos églises sont parfois de véritables champs de bataille dans lesquels on se bat pour une infime parcelle de pouvoir. Et c'est pourquoi certaines d'entre elles meurent ou sont dans le coma, un coma parfois dépassé, parce que de vieilles affaires n'ont pas été réglées. Dans un autre passage du livre des Actes, l'apôtre Paul avertissait les anciens d'Éphèse à qui il faisait ses adieux en disant, je sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. L'un des domaines inquiétants où la corruption du péché commence à faire des ravages dans nos églises, c'est celui de la vérité. Sous l'influence des réseaux sociaux, la notion même de vérité a fini de voler en éclats en Occident. En la matière, la pandémie du Covid a été moins la cause que l'accélérateur d'une réalité. Nous sommes passés dans l'ère de la post-vérité. Voici ce que dit Wikipédia, qui n'est pas la source la plus fiable, mais qui est quand même de temps en temps intéressant. Je cite, « L'évolution des interactions entre la politique et les médias au XXIe siècle, du fait de la montée en puissance de l'usage social d'Internet, notamment de la blogosphère et des médias sociaux, ces néologismes désignent plus particulièrement une culture politique au sein de laquelle les leaders politiques orientent les débats vers l'émotion en usant abondamment d'éléments de langage et en ignorant ou en faisant mine d'ignorer les faits et la nécessité qu'ils soumettent leur argumentation, ceci à des fins électorales. Voilà une définition partielle de la post-vérité. Nous en avons eu un formidable exemple avec les élections américaines en 2020, dans lesquelles une partie de nos coreligionnaires évangéliques ont joué un rôle contestable et à un moindre degré, un autre avec la gestion de la pandémie en France. Là encore, il ne faudrait pas croire que ce phénomène épargne nos communautés, ni même leurs responsables. Je suis pour ma part effaré de voir à quel point l'honnêteté intellectuelle ou simplement la bonne foi est devenue d'or et rare, y compris dans nos églises, où chacun préfère le confort de ses fausses croyances, de sa lecture subjective de la Bible à l'exigence d'une remise en question suite à un exposé clair de la vérité de l'Écriture. Et je suis peiné, mes amis, de voir des athées peu nombreux, certes, plus prompts à rendre justice à leur adversaire intellectuel que des croyants à leurs frères et sœurs dans la foi. Plus préoccupant encore, mais cette fois pour l'annonce de l'Évangile, cette tendance de la société à battre en brèche l'universalité de la condition humaine au profit d'un droit à la différence que l'on exige, que l'on exhibe comme une blessure. Être femme, être noir, être homosexuel, etc. Pour immédiatement réclamer un droit à l'indifférence dans les deux sens du terme. Je ne méconnais pas les souffrances spécifiques des uns et des autres, mais je suis persuadé, mes amis, que nous n'aiderons pas nos contemporains à trouver la paix en les poussant à cultiver leurs ressentiments, ni en mettant sous le boisseau ce que dit l'Écriture, à savoir que le problème se trouve dans le péché qui nous caractérise toutes et tous et dont le Seigneur seul peut nous libérer. Dans un article intitulé « Six façons d'éliminer les loups », Kostikin, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le neveu de Bedning, un grand prédicateur de la prospérité, mais qui lui s'est éloigné de son oncle. Kostikin nous rappelait à une dimension de notre charge de pasteur, que nous n'aimons guère. Parler des menaces spirituelles dans l'Église peut être inconfortable pour certaines personnes. J'ai récemment eu une conversation avec un pasteur qui m'a fait remarquer « Je préfère de loin me concentrer sur les bonnes choses et sur la bonne nouvelle plutôt que de semer la peur dans le cœur des membres de notre Église avec des remarques pessimistes sur les faux enseignants. » Réponse de Bénine, ou réflexion, « Bien que je comprenne le sentiment, l'Écriture est notre autorité. » Et il ne s'agit pas de faire l'article à des consommateurs ou d'atténuer la réalité, même avec les meilleures intentions du monde. Nous ne choisissons pas dans le menu des options pastorales. Et nous ne décidons pas, je vais prendre les parties faciles de la vie de l'Église en plat principal, avec options sans controverse. Aucun de ceux qui sont enrôlés comme bergers auxiliaires du Christ ne peut choisir ce qu'il fait comme s'il était devant un buffet. Nous sommes les serviteurs du Christ, pas de nous-mêmes. Oui, nous voudrions tous nous concentrer sur les bonnes choses et sur la bonne nouvelle. Pourtant, plus souvent que nous ne le souhaiterions, nous nous retrouvons à murmurer les mots de Jude alors qu'il agonisait Bien-aimé, tandis que je m'appliquais à vous écrire au sujet de notre salut commun, j'ai été contraint de vous écrire pour vous exhorter à lutter avec ardeur pour la foi qui a été livrée une fois pour toutes aux saints. Et Jude, verset 3. Cette réalité du péché, mes amis, et de sa corruption présente jusque dans nos églises se manifeste aussi par la haine que nos semblables vouent aux croyants véritables depuis le jour de la Pentecôte. Vous savez, des hommes et des femmes qui reconnaissent leur état de péché, qui invoquent le pardon du Sauveur et qui se soumettent au Créateur, ne peuvent qu'indisposer ceux qui veulent à toute force se croire libres et ne veulent rendre de compte à personne. Communiquer l'Évangile au monde, c'est inévitablement créer la division dans l'humanité entre ceux que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement et ceux qui s'obstinent dans le refus d'écouter Dieu. Il nous faut, mes amis, perdre une illusion tenace. Vivre en témoin fidèle ne nous vaudra jamais l'approbation des foules. Ou alors, nous nous croyons plus grands et plus forts que le Maître et son apôtre. Je vous rappelle ce que j'ai lu à la fin du texte. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne et le serviteur supérieur à son maître. Cette réalité d'un monde dangereux marqué par la perdition et plein de haine à l'égard du peuple de Dieu et à propos duquel le Seigneur nous avertit, « Je vous envoie au milieu des loups », doit nous inciter à la prudence. Le jeune David, lorsqu'il a renoncé à l'équipement militaire du roi Saül, n'est pourtant pas allé au combat la fleur au fusil. Il était convaincu, certes, que l'Éternel lui donnerait la victoire, mais il a pris le temps de choisir au milieu du torrent les 5 petits cailloux polis qui iraient bien avec sa couronne. Le croyant convaincu que le Seigneur est avec lui ne doit pas davantage aller au combat sans préparation ou la fleur au fusil. Jésus avertit ses apôtres, soyez prudents comme des serpents. La conviction que nous sommes porteurs de l'Évangile ne doit pas nous amener à la communiquer sans habileté ni discernement. Il faut, mes amis, parfois s'abstenir de jeter la perle au pourceau et à d'autres moments insister à temps et à contre-temps pour que la bonne nouvelle fasse son chemin dans les cœurs. Vous connaissez certainement Franck Meyer, du CPDH. Il est maire aussi d'une petite ville, à Sotteville-sous-le-Val, dans la grande agglomération de Rouen. Et avec l'Institut biblique de Nogent, nous lui avons demandé si nous pouvions venir chanter dans sa commune. Et il nous a dit pas de problème. Il y a une petite chapelle catholique qui est la propriété de la mairie. Je la mets à votre disposition. Et comme nous nous déplaçons avec la chorale, nous demandons à ceux qui nous accueillent de nous soutenir. Mais il m'a dit ceci. Je suis prêt avec l'argent municipal à vous soutenir, mais si je fais cela, vous ne pourrez pas clairement annoncer l'Évangile. Alors j'ai dit à Franck, écoute Franck, je préfère me passer de l'argent dans ta mairie, mais je veux garder la liberté d'annoncer l'Évangile. Et Franck l'a très bien compris, si vous connaissez, il n'y a eu aucun problème. Il y a des moments, il faut faire des choix. Alors deuxième réflexion, il faut restez fidèles à notre identité. Je vous envoie, dit le Seigneur, comme des brebis au milieu des loups. C'est comme des brebis qui est important ici. Alors, la précision a de quoi surprendre et pourrait laisser penser que le Seigneur nous envoie sans sourciller à l'abattoir. Car je ne sais pas si quelques-uns ont déjà élevé des brebis. Mais vous savez, la brebis est un animal vulnérable incapable de se défendre par elle-même contre les prédateurs. Alors quand on nous dit « Allez-y comme des brebis au milieu des loups », ça veut dire « On va se faire dévorer ». Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Mais pour bien l'entendre, il nous faut une juste compréhension de la doctrine du salut. en nous régénérant par l'esprit lors de la nouvelle naissance, le Seigneur nous libère de l'asservissement du péché et fait de nous des nouvelles créatures. Encore faut-il bien comprendre ce qui se passe lors de la régénération. Quelle est la nouveauté? Car il y a beaucoup de confusion à ce propos dans le monde évangélique. La première confusion, c'est ce que j'appelle la vision triomphaliste de la foi, qui incite les croyants mal affermis et les prédicateurs qui les poussent dans ce sens, à croire que la foi non seulement surmonte les difficultés, mais encore qu'elle les élimine. Dans cette perspective, la prière fervente est toujours exaucée, la guérison réclamée toujours obtenue, la prospérité spirituelle et matérielle garantie, l'épreuve déposée au pied de la croix surmontée sans délai, la tristesse engloutie par la joie du salut, le doute, mais quel doute? De quoi parlez-vous? Comme l'expérience chrétienne ne correspond jamais à cette version idyllique, les frères et sœurs qui la professent passent de la culpabilité écrasante et souvent cachée à l'exaltation momentanée quand sous la pression d'un prédicateur doué ou l'influence d'une convention émouvante, ils se promettent de changer. Quant aux prédicateurs, ils s'enferment dans leur certitude et cachent soigneusement leurs doutes et leurs échecs. Mais il y a une autre façon d'aborder les choses qui est tout aussi problématique, c'est ce que j'appelle l'approche perfectionniste, qui pousse les croyants à penser que le péché est déjà vaincu ou que la sainteté finale est à portée de main si. Et tout est dans le si. Je vais vous égrener les si. Si vous priez et jeûnez davantage, si vous recevez un baptême de puissance, si vous vous séparez soigneusement des pécheurs, si vous rejoignez telle communauté et adoptez son style de vie, si, si, si. Inutile de vous dire que c'est bien souvent dans le sillage de ce perfectionnisme que les scandales les plus éclatants et les plus troublants ont éclaté. Incohérence criante entre l'enseignement et la vie des responsables, abus de faiblesse sur des personnes fragiles, secrets de famille destructeurs. Dans l'un et l'autre cas, mes amis, tout fonctionne comme si on faisait une erreur sur la régénération. Au lieu de la prendre pour ce qu'elle est, une réorientation de toute la personnalité, mais attention, une personnalité qui garde ses caractéristiques essentielles. Un timide reste un timide, un leader reste un leader. Mais sa personnalité est réorientée. Et cela met en route un processus de sanctification. Là où il y a erreur, c'est qu'on pense dans certains milieux que la régénération fait une sorte de transmutation. On devient quelqu'un d'autre. Donc on passe de timide à pilgrime, par exemple, on considère que la régénération, ce n'est pas le début, mais l'aboutissement. Il suffit juste maintenant de préserver cet aboutissement pour qu'il ne soit pas entamé. Je m'explique. Le triomphaliste croit plus ou moins consciemment que l'objectif de la vie de foi est de faire du croyant un surhomme ou une surfemme, dégager des contingences naturelles. Et certains vous diront que le chrétien n'est jamais malade. J'aimerais moins. Le perfectionniste, lui, quant à lui, confond la justification et la sanctification. Et il pense qu'il faut simplement respecter certaines conditions pour désormais garantir le salut. En réalité, la régénération, œuvre de transformation de l'esprit, correspond à cet autre élément appliqué par l'esprit, dit de la justification, qui m'applique les effets de la croix. Je suis déclaré juste par la grâce, cette grâce me conduit à chercher à la sainteté, à répondre pleinement à ma vocation de créature, être homme ou femme au service de Dieu sous son regard. Mais je n'ai pas fini le combat contre le péché. Et les difficultés ne manqueront pas dans la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais peut-être que je prêche à des convaincus, la vie chrétienne n'est pas un grand fleuve tranquille. Alors, je reviens à ce que je disais au début de cette deuxième partie. Une juste compréhension de la doctrine du salut est nécessaire pour rester fidèle à notre identité de brebis. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que dans un monde cruel, de loups cruels, nous pourrions être tentés d'user des armes de ceux qui nous dénigrent, réagir avec cynisme, colporter des rumeurs diffamatoires, et surtout répondre à la haine par la haine. Et finalement, jouer aux soldats féroces et cruels que nous ne sommes pas. Or, mes amis, trop de frères et sœurs cèdent à cette tentation sur les réseaux sociaux et deviennent ainsi semblables à ceux qu'ils dénoncent. Le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups, pas pour devenir des loups. Comme des brebis, c'est-à-dire en créature dépendante, entièrement dépendante du bon berger. Souvenez-vous, le jeune David a préféré rester lui-même pour affronter Goliath. Il savait pertinemment que jouer au soldat ne changerait rien à la fête. Il est allé au combat en simple petit berger, mais avec une conviction qu'il habitait. L'Éternel combattra pour moi et j'aurai la victoire. Il ne nous faut rien de plus, mes amis, pour communiquer l'évangile au monde, à un monde dangereux. Et c'est pourquoi le Seigneur ajoute à la prudence du serpent l'innocence de la colombe. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. J'interprète ce innocent comme une invitation à l'honnêteté et à la pureté des intentions dans toute notre démarche. Je pense qu'il faudrait parfois prêcher plus sur l'intégrité dans le témoignage. Alors je termine par ne pas se tromper de combat. Le verbe qui précède le « au milieu des loups comme des brebis », c'est « je vous envoie ». Ce passage fait référence à l'envoi des disciples auprès des brebis perdues d'Israël pour annoncer que le royaume des cieux est proche, guérir des malades, ressusciter les morts. C'est l'annonce d'un envoi plus universel que nous retrouvons à la fin de l'évangile de Matthieu. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. L'histoire ancienne et plus récente de l'Église nous apprend qu'il faut avoir une juste compréhension de la mission qui est confiée aux disciples pour ne pas se tromper de combat. Et j'y reviendrai dans un moment. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui, ici et là, le combat politique prendre le pas sur le commandement missionnaire. Et le témoignage en être gravement affecté. Mais l'affaire est ancienne. Ça a commencé au IVe siècle, quand l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. L'Église a alors cru qu'avec la christianisation de l'Empire, son âge d'or était arrivé, qu'elle allait pouvoir transformer le monde. Savez-vous ce qui s'est passé? Dans les faits, ce n'est pas l'Église qui a transformé le monde. C'est le monde qui est entré dans l'Église et l'a détourné de sa mission. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simple. Les sujets de l'Empire, tout d'un coup, devaient aller à l'Église. Et donc, les prêtres ont vu un afflux de gens qui ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, et il fallait bien s'occuper d'eux. Mais, devant cet afflux de gens, la première réaction de l'Église ancienne, c'était de les baptiser. Donc l'Église a baptisé à tour de bras, mais comme on n'avait pas le temps, on ne les enseignait plus. Parce que dans l'Église ancienne, normalement, avant le baptême, vous aviez 3 ans de catéchèse pré-baptismale. Alors après, s'est posé un autre problème. c'est que ces gens-là qui étaient superficiellement chrétiens, bah, il fallait les garder à l'église. Et alors, il fallait inventer des divertissements. Vous savez quel était le grand divertissement qui a aidé l'église à garder les gens? C'est les pèlerinages. Les pèlerinages étaient au fond des manifestations, des sortes de jeux religieux, mais qui permettaient d'intéresser l'église, parce que la messe, vous comprenez, ça va un moment, quoi. Voilà. Et on sait tous ce que ça a donné. Ce qui me préoccupe, c'est que jusqu'à un certain point, l'histoire se répète. Et j'aimerais vous citer deux exemples. Je vais faire référence pour une à des choses qui datent de 2010. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Côte d'Ivoire, lorsque le président sortant Laurent Gbagbo se représente face à Alassane Ouattara, les églises et les pasteurs s'en sont mêlés, jusqu'à faire du candidat pour une partie d'entre eux l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Laurent Gbagbo. Conséquence, l'échec est impossible. Et donc, quand le verdict des urnes tombe et que Laurent Gbagbo n'est pas élu, eh bien, évidemment, c'est une erreur. S'il est l'envoyé de Dieu, Laurent Gbagbo a donc refusé de reconnaître sa défaite et le pays a sombré dans le chaos. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce chaos, il était jusque dans les églises, où ils se battaient. Et le sang a coulé dans les églises sur cette question. Plus récemment, aux États-Unis, lorsque le président Donald Trump s'est présenté pour un deuxième mandat, je parle de 2020, face à Joe Biden, les leaders évangéliques qui le soutenaient en ont fait, vous le savez peut-être, un Cyrus contemporain, un moine de l'Éternel. Persuadé qu'il allait gagner, mais que son adversaire allait tout faire pour lui voler la victoire, ils n'ont reculé devant rien pour assurer sa victoire. Prophétiser faussement, diffamer son adversaire, jeter des anathèmes sur les démocrates et même prendre le Capitole. Conséquence, mes amis, le nom du Seigneur a été tourné en dérision par les adversaires de l'Évangile. Des chrétiens mal affermis se sont détournés de la foi véritable et le sang a coulé. Il y a eu des morts. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Il y a, mes amis, dans ces deux situations, une méprise grave sur la mission qui est confiée aux disciples du Christ. Non pas conquérir le pouvoir, pas même promouvoir les valeurs, chrétienne, encore moins agresser les pécheurs, le communiquer l'évangile. Alors je vais vous redire ici ce que j'ai dit à l'Assemblée du CNEF lorsque j'en étais président à propos d'un discours sur la promotion des valeurs, la défense des valeurs. Ce que de trop nombreux chrétiens ne perçoivent pas, c'est que ce discours sur les valeurs joue le rôle de référence ultime, parfois même de religion de substitution. C'est très net avec la valeur laïcité. Ça devient une valeur transcendante. Dans une société qui s'est systématiquement éloignée de toute idée de transcendance. Or, mes amis, une valeur qui n'a plus Dieu et sa volonté pour référence se transforme en idole et produit une morale bien plus rigide et plus asservissante que tous les commandements divins réunis. Pensez à la multiplication des interdits que produit la liberté idolâtrée. Interdit de considérer l'avortement comme un mauvais choix. Interdit de proposer une alternative même raisonnable à l'IVG sur Internet. Interdit de parler d'homosexualité comme d'un péché. Interdit de donner la fessée à son enfant. Et surtout, interdit d'interdire. Disons-le tout net, la défense des valeurs, fût-elle chrétienne, n'est pas notre combat. Nous n'avons pas vocation à encourager l'idolâtrie, ou ce qui n'est guère mieux, l'hypocrisie. Car souvenons-nous, il fut un temps pas si lointain où la morale chrétienne, les valeurs de la famille et de la fidélité conjugale imprégnaient la société. Les hommes et les femmes étaient-ils meilleurs pour autant? Non. Mais assurément plus retors. puisqu'une grande partie d'entre eux s'efforçait juste de sauver les apparences. Est-ce vraiment ce que nous voulons? N'avons-nous pas plutôt à annoncer l'incapacité totale de l'homme à faire le bien et le don de la justification par la grâce de Dieu au moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ? Oui, chers amis, le seul combat qui vaille en ce monde en perdition, c'est celui de l'annonce de l'Évangile, de cette puissance de Dieu par laquelle il sauve tout ce monde. Alors vous me direz peut-être, mais il faut bien dénoncer le péché, pas seulement annoncer la grâce. Et je vous répondrai, vous avez raison. Mais il suffit pour cela d'annoncer toute la bonne nouvelle, la croix et la résurrection, la culpabilité du pécheur et l'offre du pardon par le Sauveur, l'asservissement d'une vie sans Dieu et la liberté d'une vie vécue sous le regard de Dieu. La mission n'étant rien aisée, et nous n'avons ni performance à réaliser, ni objectif de productivité à atteindre. Nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups pour communiquer l'Évangile. Alors, mes amis, n'allons pas au combat la fleur au fusil avec la prudence du serpent. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Allons au combat en brebis vulnérables et dépendants du bon berger, non en soldats féroces et suréquipés. Et donc, allons-y avec l'innocence de l'inconnu. Ne nous trompons pas de combat. Notre mission est d'annoncer le salut, pas d'établir le royaume. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et je vais encore ajouter quelques remarques sur le thème général du week-end pour conclure, si je ne vous ai pas totalement endormi. Quelqu'un m'a fait remarquer que l'entreprise en soi n'était pas mauvaise. Et je suis entièrement d'accord. Et c'est votre Marguerite, Marie-Françoise, pardon, qui me disait, mais est-ce que Billy Graham n'a pas monté une sorte d'entreprise pour annoncer l'Évangile? Ma réponse est oui. Est-ce que c'était bien? Oui. Donc, je ne mets pas en cause l'entreprise en tant que telle. Et beaucoup de nos œuvres sociales sont des entreprises. Je suis à la tête d'un institut biblique qui est une PME. Je dis simplement que l'Église n'est pas cela. Que l'Église locale ne doit pas être seule. Et j'aimerais ici attirer votre attention sur le fait qu'il y a dans le monde de l'entreprise des outils intéressants, parfois appliqués à l'Église, qui ne sont pas négligeables. Par exemple, savoir comment conduire le changement dans une Église, s'intéresser à la médiation et à la gestion des conflits, savoir gérer un projet d'Église, ou définir une VMV, vision, vision, mission, valeur. Ne pas écarter la possibilité de faire un audit de la communauté, tirer le meilleur parti de la littérature sur le leadership ou le coaching, n'est pas forcément à négliger. Je connais, mes amis, bien des situations où le recours à ces outils ou la mise en œuvre de ces méthodes ont permis d'améliorer un fonctionnement approximatif, d'identifier des causes de dysfonctionnement, voire de débloquer des situations compromises. Ce que je mets en cause dans mon titre « L'Église n'est décidément pas une entreprise », ce ne sont pas les outils ou les méthodes en eux-mêmes, mais le manque d'adaptation et de précaution dans leur utilisation. En effet, ceux qui sont habitués à avoir recours à ces procédés dans le monde professionnel tendent à confondre, pas toujours consciemment, l'Église avec une entreprise, alors que leurs finalités sont différentes. C'est ainsi, par exemple, que lors d'un conflit entre un pasteur et un conseil d'église, un groupe de médiation a cru bon de traiter en priorité la dimension fonctionnelle du problème. C'est-à-dire qu'il s'agissait de redéfinir les fonctions de chacun, et ils ont dit « on remettra le traitement des questions relationnelles à plus tard ». Sauf que le problème relationnel, c'était des blessures et des accusations. Alors, si on est en entreprise et qu'il s'agit surtout de continuer à répondre au carnet de commandes qu'on a, donc de produire les biens qui nous ont été commandés, oui, on peut mettre de côté les questions relationnelles pour ne s'occuper que du fonctionnel. Mais même dans l'entreprise, si vous faites ça longtemps, vous finirez par avoir des problèmes. Par contre, dans l'Église, la relation, c'est le cœur même de ce que nous sommes. Je ne vois pas une Église qui puisse fonctionner bien avec des gens qui n'ont pas réglé leurs différends entre eux. Ce n'est pas possible. Ce sera une apparence d'Église, ce sera un club qui fonctionne, et ce ne sera pas une Église. Et c'est là où je mets en cause cette confusion. L'Église, mes amis, n'a pas de carnet de commandes à honorer, ni de délai à tenir, mais un Seigneur à honorer. C'est pas la même chose. Et un peuple à guider, à soigner. Et cela change. Deuxième chose. Comprenez-moi bien. Je ne considère pas qu'il est vain d'élaborer une vision ou de définir des objectifs dans une Église. J'attire simplement l'attention sur la nature exacte de l'une et des autres. L'Église, parce qu'elle dépend du Seigneur, travaille avec la patte humaine et a une obligation de moyens. Tout mettre en œuvre pour nourrir et conduire le peuple de Dieu. Mais elle n'a pas une obligation de résultat. L'Église ne produit pas la conversion, elle ne produit pas la sanctification, qui sont pourtant au cœur de son existence. Ainsi, il me semble vain pour l'Église de traduire un objectif de croissance en un nombre défini de convertis ou un projet d'implantation d'une durée calibrée parce qu'elle ne maîtrise ni l'action du Saint-Esprit ni le temps de Dieu. Je me suis battu avec des missionnaires américains qui me disaient « Si vous faisiez bien l'évangélisation, en 2 ans, vous montez une Église. » Je dis « Vous savez juste pas de quoi vous parlez en France. » Par contre, l'Église n'est pas réduite pour autant à la fatalité, mais appelée à mettre en œuvre tout ce qui relève de sa responsabilité. L'intercession fervente, la proclamation audacieuse et pertinente de l'Évangile, les conditions humaines et matérielles pour lancer une implantation nouvelle. Au fond, l'Église est plus proche de la médecine, avec son obligation de soins sans garantie absolue de guérison, que de l'industrie avec son obligation de production et sa garantie de service public. Et encore, je dois vous ajouter que même la médecine aujourd'hui se trouve sous la pression d'une obligation de résultat par la judiciarisation des affaires. Puisque dès qu'un médecin n'obtient pas le résultat attendu, on le traduit en justice. Troisième considération. L'Esprit souffle où il veut. Il faut ajouter à cette obligation de moyens, pas de résultats, une réalité plus théologique que par nature, une entreprise ne prendra jamais en compte la souveraineté de Dieu. Le livre des Proverbes l'exprime ainsi. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Ce que le Seigneur dit encore autrement à Nicodème, l'Esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. J'ai par exemple observé dans l'exercice du ministère pastoral qu'il y avait toujours un décalage, une surprise entre ce que je projetais et ce qui se passait. Ce qui n'est pas en soi un problème. C'est ainsi que j'ai pris du temps avec des personnes qui s'approchaient du Seigneur et que c'est parfois, au même moment, d'autres personnes totalement inconnues qui se sont converties et qui ont finalement rejoint l'Église. Quand ces décalages ou ces surprises interviennent dans des projets d'ampleur, elles peuvent déstabiliser les personnes investies, le pasteur, le conseil de l'Église, au point qu'elles refusent de se remettre en question et de rester ouvertes à ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Et dans le cas que je vous ai cité hier, vous savez, de cette mission qui avait fait toute une stratégie de marketing, la construction du projet qu'elle avait fait était tellement élaborée qu'en fait, il n'y avait plus aucune place pour l'œuvre du Saint-Esprit dans cette stratégie. Aucune. Les amis, tout en faisant des projets, nous devrions toujours laisser du temps et de la place pour que le Seigneur nous surprenne et nous montre une autre direction ou un autre moyen de parvenir à la même fin. Et le Seigneur a plus d'un tour dans son sac. Je peux vous le garantir. Alors, je vous fais trois recommandations sous forme de trois erreurs à ne pas commettre. Pour ne pas prendre l'Église pour une entreprise. La première erreur, c'est de confondre les moyens avec la fin. Acquérir un nouveau lieu de culte, former un groupe de louanges consistant, élaborer un programme d'Église attrayant, mérite notre attention, certes, mais pas toute notre énergie. Ce ne sont que des instruments pour atteindre un but supérieur, glorifier le chef de l'Église, notre Seigneur, ici et maintenant, par notre attachement à sa personne et notre fidélité à sa parole, et par notre amour du prochain. Et il n'existe qu'une façon d'atteindre ce but supérieur. Il n'existe pas qu'une façon, excusez-moi, il n'existe pas qu'une façon d'atteindre. La multiplication des lieux de culte, y compris dans les maisons, peut être une alternative valable à l'acquisition onéreuse d'une grande salle de culte qui mobilisera des ressources financières et humaines importantes. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Seconde erreur à ne pas commettre, c'est justifier. Alors, attendez. Tiens, ça marche plus. Oui. Justifier les moyens par la fin. Si l'acquisition d'un nouveau lieu de culte doit se faire au prix d'une division de la communauté ou d'une incapacité à rémunérer un pasteur pendant plusieurs années ou d'un égocentrisme ecclésial par manque de fonds pour continuer à honorer des engagements missionnaires, alors je le dis tout de go, l'Église fait fausse route. L'Église fait fausse route. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice ne passe certainement pas par l'arrêt d'engagement important pour l'avancement du royaume de Dieu, ni par l'abandon d'une partie de la communauté pour la faire grandir. C'est un non-sens, quand même. Troisième erreur, c'est préférer la quantité à la qualité. La performance rapide et visible à l'enracinement lent et caché. Je m'inquiète de voir trop d'églises surfer sur le consumérisme religieux d'une partie non négligeable de leur auditoire. Vous savez, en région parisienne, je sais, c'est pas comme ça ici, mais en région parisienne, vous avez une quantité de gens que vous ne voyez que le dimanche. Parce qu'ils font du consumérisme religieux. L'église, c'est bien parce qu'elle peut leur apporter quelque chose. Je me souviens d'être allé dans une église avec un collègue. Une église qui était en difficulté. Nous leur avons dit, qu'est-ce que vous attendez de la Fédération Baptiste? Alors, ils nous ont dit une seule chose. Ils nous ont dit, on veut juste un bon pasteur qui nous fasse des bons cultes pour qu'on soit bien. Et ils n'avaient pas les moyens de le payer en plus. Avec mon collègue, nous leur avons répondu, si c'est tout ce que vous voulez, alors nous ne sommes pas là pour vous. Parce que ça, c'est pas une vision d'église. Ce n'est pas une vision d'église. J'ai eu une fois un président d'une église locale qui m'appelle, qui me dit Étienne, il faut que tu viennes, on a des problèmes. Et je viens. Et de me raconter devant son pasteur, oui, on en a marre, le pasteur nous lance toujours des défis, ça devient fatigant, etc. Ben, il commence à vraiment critiquer son pasteur. Et alors, je lui dis, mais, et alors, il me dit, tout beau, il me dit, moi, tu sais, moi, j'ai une semaine difficile, donc, ce que je veux le dimanche, c'est pouvoir venir dans les bancs et qu'on me fiche la paix. Le président de l'église, hein. Je n'ai trouvé qu'une seule réponse à lui faire. Je lui dis, ben, écoute, mon ami, je pense que tu n'aurais pas aimé avoir Jésus comme pasteur. Parce que je pense pas qu'il t'aurait laissé tranquille dans les bancs de l'église. Si nous ne prenons pas au sérieux, mes amis, l'enseignement biblique, l'obéissance au commandement du Seigneur et la persévérance dans la foi, nous aurons peut-être des communautés bien fréquentées, mais pas de vie profondément transformée. Et aujourd'hui, en région parisienne, réunir 100, 200 personnes, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir le lieu pour le faire. Mais ce n'est pas difficile. Mais est-ce que parce qu'on vient au culte de 10h à midi et qu'on disparaît le reste de la semaine, est-ce que ça fait de vous un chrétien? Ma réponse est non. Les chrétiens du dimanche, ce n'est pas des chrétiens. Parce que la vie et le culte, c'est 24h sur 24 devant Dieu. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, dit l'apôtre Paul, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il n'a pas dit venir le dimanche matin de 10h à midi. Et vous savez ce que disait Luther? Le problème avec le sacrifice vivant, alors il le disait dans un terme floride que je vais éviter ici, il disait le problème avec le sacrifice vivant, c'est qu'il veut toujours descendre de l'autel. Mes amis, l'Église corps du Christ mérite mieux qu'un simple business plan et même qu'un projet d'Église, une VMV, vision, mission, valeur, pour vivre et pour grandir. Et c'est ce que je m'efforce de vous communiquer. L'Église est celle du Seigneur. Soyons à l'écoute de son esprit et ouvrons sa parole. Il nous surprendra certainement, mais ses voix sont meilleures que les nôtres. Amen.